Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes tout compris avec un plat du jour, une madeleine, une cerise sur le gâteau, incarnée aujourd'hui par Camille Labro. Bonjour Camille.
Bonjour Caroline.
Ravie de vous revoir ce mois-ci. Camille Labro, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler du Michelin.
Ah bah vous aussi.
Oui, bien sûr, et d'un restaurant qui a une longue histoire et d'une étoile qui est revenue.
À tout à l'heure, 12h25. Matteo Caranta est avec nous, bien évidemment. Bonjour Matteo.
Bonjour Caroline.
La madeleine du jour, de qui s'agit-il ?
Bien, je me suis rendu à l'atelier du bédéaste Bastien Viveste juste avant son départ pour Angoulême.
Et la madeleine, c'est tout à l'heure à 12h15. Et pour notre plat du jour, nous allons parler du guide Michelin.
Je suis très heureuse et très honorée d'être de nouveau maîtresse de cérémonie de cette belle cérémonie des Michelin 2020.
Même des gens qui n'aiment pas la cuisine de Bocuse m'ont dit « c'est magique, ce restaurant est immense ». Et choisissent ce moment-là pour retirer la troisième étoile, c'est un suicide à l'état pur.
Bien sûr, nous sommes amenés à faire des choix. Et quelquefois, ces choix sont difficiles et peuvent ne pas plaire à tout le monde.
Aujourd'hui, une belle assiette, c'est quoi exactement ? La qualité du dressage ? La qualité des produits ?
Je crois qu'il est temps désormais de dévoiler la sélection des restaurants 2 et 3 étoiles cette année. Le Skiff Club, Stéphane Yuki Tanaka et Marine Tanaka, Thierry Caracaccian et Lionel Bravard, Tatsunari Okazaki et Louis-Marie Robert, La Seine, Stéphanie Lekelec,
les autres 3 étoiles, Laurent Petit, Christophe Bacquier, Eric Fray, Yannick Alénaud.
Voilà, la messe est dite, Bibendum a frappé. Les sélections de l'édition 2020 du Guide Michelin ont été annoncées en grande pompe lundi soir. En grande pompe, mais dans une ambiance tendue, créée notamment par une polémique. Après la perte d'une étoile de l'auberge de Collonges au Mont d'Or de feu Paul Bocuse, cette rétrogradation d'une institution triplement étoilée depuis 1965 a retenti comme un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Alors comment interpréter ce déclassement ? Coup médiatique destiné à booster des ventes en perte de vitesse ou volonté affichée de changer d'air de la part du nouveau directeur du Michelin ? La haute cuisine française vit-elle sa bataille des anciens et des modernes ? Nous avons réuni deux critiques gastronomiques aujourd'hui autour de la table des bonnes choses pour discuter ensemble. Perico Legas, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef du service Savoir Vivre de Marianne après avoir œuvré sur France 3, LCP, France Inter. Vous êtes l'auteur de livres sur la cuisine et la malbouffe. On peut citer par exemple le dernier de 2018, du panier à l'assiette, alimentation, grande distribution, agriculture, pour en finir avec la malbouffe que vous aviez signé avec Serge Papin, l'ancien PDG du Système U chez Solar Edition. Voilà qui est dit. Franck Pinet, Rabarouste est avec nous également. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes, vous, un ancien rédacteur au Michelin. C'est important parce que vous allez témoigner de ce que vous y avez vécu, j'espère en tout cas. Et vous êtes le fondateur du site Atabula, site spécialisé en matière de gastronomie. Vous avez consacré un livre à la cuisine de David Toutain en 2014 aux éditions Argol. Vous étiez lundi soir, Franck Pinet, Rabarouste, à cette soirée cérémonie. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Sur la soirée en elle-même, elle était plutôt agréable, on va dire, et j'étais impressionné par l'émotion, finalement, qu'il y avait dans la salle. À plusieurs reprises, il y a eu des standing ovations, en bon français, où tout le monde s'est ému et s'est levé pour féliciter les nouveaux promus. Il y avait donc une vraie émotion, et la soirée était plutôt réussie en termes de rythme, à part peut-être 2-3 couacs, mais c'est vraiment compliqué de gérer une telle soirée où il y a autant de personnalités, autant de prises de parole obligatoires. Mais dans l'ensemble, si on ne juge que la cérémonie en tant que telle dans son déroulé, elle était plutôt agréable et positive.
Quid du palmarès ?
Là, c'est une autre chanson. Là, effectivement, sur le palmarès, il y a beaucoup à dire. On a un palmarès qui est en réalité le premier vrai palmarès du nouveau directeur, Wendal Poulenec. Les autres années, il était soit pas là, soit il faisait ça un petit peu en binôme avec Michael Ellis.
Il est arrivé en septembre 2018.
Mais effectivement, en termes de calendrier du guide Michelin en fonction des enquêtes, c'était sa première vraie sélection sur les rétrogradations et les promotions. C'est un palmarès extrêmement bizarre, j'ai presque envie de dire illisible, parce qu'on n'arrive pas trop à percevoir quelle est la ligne éditoriale du Guide Michelin aujourd'hui en 2020. Où est-ce qu'il veut aller ? Il a envoyé des messages très paradoxaux, en rétrogradant d'abord Paul Bocuse, le restaurant Paul Bocuse, et en faisant que ça se sache 10 jours avant la sélection. Alors, ça se comprend aisément, une manière de dégonfler le truc, on n'en parle pas le jour de la cérémonie, la chose est évacuée, elle demeure néanmoins en termes de messages très forts. On dit d'un seul coup. Il n'y a plus personne de protégé. Politique qui avait commencé l'an dernier avec le déclassement de Marc Eberlin, le cas Vera étant totalement singulier et à part. Et donc on a commencé à penser que ces grandes institutions qui ont fait l'histoire de la gastronomie française pouvaient être déclassées. Pendant des années, on disait ils sont protégés. Chose qui se discute ou pas d'ailleurs. Cette année, donc, ce premier message très très fort, on pense que la révolution est réellement engagée. Puis ensuite, on apprend qu'il ne sera la seule table déclassée. On se dit finalement, Bocuse devient pas tellement un coup de stratégie éditoriale, mais un buzz médiatique. On se pose tout au moins la question. Ensuite, troisième temps, la table de Florent Ladène, qui est une table, on va dire, de liberté, une table un peu plus bistronomique, jeune, engagée et déclassée. Là, on se dit, waouh, où est-ce qu'il veut aller? Et quatrième mouvement, c'est la sélection, qui est particulièrement décevante, avec beaucoup d'oubli, et des tables 3 étoiles, qui sont jugées quand même, on va dire, 2 sur 3, assez tièdes, et qui ont fait l'unanimité lors de la sélection, mais qui, avec un peu de recul, on s'aperçoit quand même qu'elles ne sont peut-être pas au niveau.
Père Collégas, une ligne éditoriale illisible, vous partagez l'avis de votre confrère?
Je constate d'abord, Franck Pinet Rabarouste est jeune, ça fait 40 ans que je cherche la ligne éditoriale du Michelin. Je prétends qu'il n'y en a jamais eu, si ce n'est qu'autrefois c'était simple. Il y avait un ou deux types de cuisine, des grands noms sur l'axe Paris-Méditerranée, et puis le Michelin consacrait les institutions qui étaient
désignées... Ça s'appelle une ligne éditoriale, hein?
Oui, mais qui étaient désignées par le public, c'était les restaurants. Bon, ensuite, il a fallu dans la diversité. Je comprends que c'est... Et Franck est bien placé pour le savoir. Le nombre d'établissements, la diversité de la cuisine aujourd'hui en France... Mais c'est inclassable. Et en plus, dans une version papier qu'on achète tous les ans, alors que le numérique et tous les autres réseaux sociaux... Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de savoir à quel média s'adresser pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut aller. Non, là où je dis que le Michelin se suicide, et Franck l'a abordé, pour ce qui est de Paul Bocuse, le Michelin doit autant à Paul Bocuse que Paul Bocuse au Michelin. Sans les 3 étoiles, Bocuse n'aurait pas régné comme une star sur la cuisine française, la cuisine mondiale. Mais en même temps... Paul Bocuse incarnait la gloire du Michelin. Voilà, il était la consécration de ce que le Michelin pouvait donner. Et il y a eu une complicité entre les deux, tacite. Et Michelin est une publication d'information privée, elle a totalement le droit de faire ce qu'elle veut. Là, elle est mal tombée, parce que justement, la cuisine de Paul Bocuse... D'abord, on va rentrer dans le débat. Est-ce qu'on peut reconnaître la diversité de la cuisine française, ne pas considérer qu'il y a un bloc et qu'il y a un guide qui décide du bien et du mal? Vu la diversité, il y a une cuisine française traditionnelle, académique, un peu ancienne. Regarde, je m'en fous. Elle est excellente, elle est merveilleuse. Il y a des gens qui l'apprécient et ses restaurants cartonnent. C'est dommage que le guide Michelin n'ait pas fait la part des choses en disant, voilà, on a une catégorie classique, on les reconnaît pour ce qu'elle est, et puis on continue évidemment à soutenir. On va expliquer ce qui se passe dans le Michelin qui a toujours eu le sentiment d'être en retard et d'être derrière, qui voudrait être devant maintenant.
Ça implique le quoi de perdre une étoile pour un restaurant comme le restaurant de Paul Bocuse, Franck Pinet Rabarouste? En général, on dit perdre une étoile, c'est 30% du chiffre d'affaires, les 3 étoiles au guide Michelin. Non,
la notion de chiffre est extrêmement complexe, tout dépend si vous êtes à Paris, si vous êtes en province, si vous êtes complet ou pas complet depuis des années. Donc la notion de chiffre est très dangereuse. Puis le poids des étoiles a changé. Il y a effectivement beaucoup d'autres commentateurs du monde gastronomique qui font que cette notion économique est plus complexe que ça. Pour la maison Paul Bocuse en particulier, d'abord le premier réflexe, c'est que ça a ressoudé les équipes. J'en parlais avec Jérôme Bocuse il y a quelques jours. La première réflexe, c'est de se dire on va aller de l'avant. Et ils ont une énorme confiance parce qu'en fait, ils ont engagé le mouvement cette année. Et je posais la question récemment à Gwendal Poulnek sur « Mais avez-vous réellement mangé chez Paul Bocuse jusqu'à la fin, là, le plus tard possible par rapport à votre sélection ?» Pour voir si vous avez vu les changements. Parce qu'il y a un vrai paradoxe sur la maison Bocuse. Pendant 10 ans ou 15 ans, je travaillais au Guide Michelin, donc j'ai vu les essais de table. Et j'ai vu que la table à cette époque-là était notée même à 1 étoile. Pendant des années, la maison n'était plus à son niveau exposé dans le Guide Michelin. Et là, paradoxalement, l'année où les équipes ont commencé à bouger à tous les niveaux, des travaux dans la salle, des réinvestissements, des nouvelles personnes en cuisine, et une cuisine réellement renouvelée dans l'assiette, j'y ai mangé il y a quelques semaines, et c'était d'un très bon niveau, j'ai même écrit que la table devait garder ses 3 étoiles cette année. Paradoxalement, cette année qu'elle perd. Donc je crois qu'aujourd'hui, la logique est de dire, et c'est le message de Jérôme Bocuse, qui est un sportif, hein, il a un moniteur de ski, il aime la vitesse, c'est de dire, nous sommes des sportifs, on ne peut pas gagner tout le temps, cette année c'est une défaite. Mais l'année prochaine, à nous de regagner cela. Et donc, il insuffle l'esprit d'abord américain. Jérôme Bocuse vit aux États-Unis, mais bien évidemment régulièrement en France et à Collonges. Et donc, il a passé ce message très sportif de dire on a perdu cette année, on gagnera l'année prochaine et ils vont remettre les moyens pour y arriver.
Mais d'une certaine façon, c'est ce que défend Gwendal Poulnek aujourd'hui, Père Collégas. C'est-à-dire, il dit les étoiles ne s'héritent pas, elles se méritent tous les ans. Est-ce que vous trouvez légitime de précisément faire en sorte que les chefs soient des sportifs en permanence et qu'ils remettent le couvert tous les ans en vue des étoiles? On sait la pression considérable que ça met sur les épaules des chefs. Certains se sont suicidés à cause de cette pression. Eh bien, on se suicide pas pour une seule raison, mais Bernard Loiseau en 2003, on a beaucoup dit que le guide Michelin était... Vous faites vraiment la tête, vous remuez dans tous les sens.
Parce qu'il n'avait rien perdu.
Bon, mais en l'occurrence, là, toujours un peu, bien sûr. En tout cas, ça a été beaucoup dit. La pression, elle le dit en permanence, cette pression sur les épaules. Donc, rajouter une pression supplémentaire parce qu'on se dit, ben finalement, j'ai travaillé. C'est comme si des danseurs étoiles, ils dansent depuis tout petit, ils passent des grades, ils ont le stade de grand danseur étoile, on ne leur enlève pas.
Les autres hiérarchies de valeurs dans le monde culturel, ça correspond à des réalités, c'est justifié, c'est expliqué. Là, l'étoile Michelin est devenue une légion d'honneur qu'on vous décerne sans explication et qu'on vous retire à un moment donné sans aucune explication. Il n'y a pas de justification. Aujourd'hui, il y a un peu plus.
C'est arbitraire,
on voit quand même, le guide Michelin est devenu ce qu'incarne sa soirée. Paillettes, pop-pom girl et buzz. Voilà, et on est effectivement dans la communication. Le restaurant de Paul Bocuse, on peut en dire ce qu'on veut, c'est la même cuisine. Alors on peut dire la cuisine est monolithique. Pourquoi le Michelin ne nous dit pas la cuisine de Bocuse est parfaite, nous n'en voulons plus. Nous sommes dans la modernité, nous sommes dans la créativité permanente. La cuisine de Bocuse, c'est un conservatoire. En architecture, on n'a pas rasé Notre-Dame pour construire Beaubourg. En cuisine, avec le guide Michelin, il faut faire table rase du passé pour pouvoir construire l'avenir. C'est absurde. Et ce que disait Franck, à la mort de Paul Bocuse, vous imaginez bien que la direction du Michelin se disait « aïe 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 ». Ça fait longtemps qu'on disait « ils vont retirer la troisième étoile de Paul Bocuse ». Pas de son vivant, ils auraient pu le faire en disant « voilà, nous on considère que cette cuisine est un petit peu vieillotte, un peu ringarde, on la retire ». Ça aurait été évidemment un cataclysme. Donc on attend que le patriarche meure, pas la même année, la deuxième année. C'est exactement la même cuisine. Le problème, c'est que les équipes savaient qu'il y avait ce risque, mais... ils ont quand même rafraîchi, ils ont quand même repensé. Enfin, en tout cas, des efforts ont été faits pour dire au Michelin, voyez, on s'en fiche pas de ce que vous pouvez faire, et nous prenons en compte la mort de Bocuse, on veut vous prouver qu'on est toujours aussi performant. Et je peux vous dire, d'avis, et je l'ai dit sur d'autres médias, des gens qui sont pas trop Bocuse sont allés voir en disant, là c'est quand même top, et ils choisissent ce moment-là. C'est-à-dire, si jamais Paul Bocuse a mérité 3 étoiles, c'est en 2019. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais moi, je voudrais poser la question au-delà de Paul Bocuse. Oui. Vraiment, au-delà. C'est-à-dire, cette idée selon laquelle on remet tous les ans en question une étoile, quelle qu'elle soit, une 3 étoiles.
À quel titre?
Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça rajoute de la pression supplémentaire?
C'est une très bonne chose.
À condition de justifier.
C'est une très bonne chose.
À condition de communiquer un peu plus.
Parce que ça remet la pression sur les chefs. Alors, les chefs ont bien sûr beaucoup de pression. Ils ont beaucoup de pression. Mais pendant des années, il faut bien comprendre aussi que pour de jeunes chefs, voir ces grandes institutions stagner à 3 étoiles, alors que forcément les jeunes chefs vont dans ces tables-là et constatent qu'elle est un petit peu à côté des clous, et bah pour eux, c'est une sorte de bouffée d'air de dire, et bah puisque eux sont déclassés, dans une sorte de vase communicant, nous, on va pouvoir monter. Donc pour eux, c'est aussi un appel d'air. Deux, c'est très bien de mettre la pression sur les chefs, parce que certains ont oublié de cuisiner. Et donc, montrer que le Michelin va être réactif face à leurs efforts, sans arrêt, et aujourd'hui, là, ils sont totalement perdus, ils ont besoin de repères, et là, le guide Michelin doit redonner des repères, mais là, il les a totalement floutés, perdus, c'est là le vrai problème, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire pour aller à la gagne des étoiles. Mais en revanche, que le Michelin dise chaque année, on va passer vous voir, on va remettre à niveau votre maison, ça, je trouve ça très bien.
Il y en a certains qui craquent, il y en a certains qui cherchent à s'en libérer, il y en a certains qui disent justement, on veut sortir de cet esprit compétitif. Souvent, d'ailleurs, les jeunes générations qu'on a reçues ici aux bonnes choses et qui disent, bon, moi, j'ai envie de cuisiner pour autre chose, j'ai envie de retrouver du sens. Un l'a fait récemment, c'est Sébastien Brass, le fils de Michel Brass, qui a décidé de se libérer du carcan des étoiles Michelin. On l'écoute.
Je fais une croix sur le Graal gastronomique. Cette troisième étoile, c'est le rêve de dizaines et de dizaines de chefs. Mais voilà, j'ai décidé de ne plus en vouloir. Des sportifs ont refusé des médailles, des acteurs ont refusé des Oscars ou des Césars. Moi, je ne veux plus de cette étoile. 50 de mes clients, midi et soir, peuvent être des gens qui viennent inspecter pour savoir si la maison, la cuisine est toujours à la hauteur des attentes du guide. Donc ça, inévitablement, ça crée une espèce de tension permanente. Et aujourd'hui, cette tension, je n'en ai plus envie.
Perico Legas.
Alors là, je m'inscris en faux. Là, je prends la défense du Michelin. D'abord, il les a toujours, ces 2 étoiles. C'est pas lui les 2 étoiles, c'est le Michelin, une publication. C'est un guide qui note. C'est comme si tout d'un coup un homme politique disait « Ah, je veux plus être dans le Figaro, hein, ou je veux plus être sur France Culture ou sur France Info ». Voilà. Mais non, c'est une média d'information. Nous parlons et les médias parlent de ce qu'ils veulent, de la façon dont ils veulent. Alors, il pourrait dire autre chose. Il pourrait demander au Michelin « Est-ce que vous pouvez me sortir du guide ? Je veux plus être dans le Michelin ». Mais décidez de lui s'il vaut 2, 3. C'est Alain Sandrez qui avait commencé, craignant de la perdre. Alors la tactique, je prends les devants, j'en veux plus. Mais ça tombe très bien d'aller te la retirer. Donc on passe pour un faiseur. Ça, c'est absolument absurde. Et je trouve que là, le Michelin devrait dire, en gros, je vous ennuie. Je fais ce que je veux, c'est moi qui décide, c'est pas
d'ailleurs
vous.
Ce qu'ils ont fait, puisqu'effectivement, ils lui ont laissé ces deux étoiles.
Voilà. Et ça, c'est une forme de com' à l'envers.
Le oui. Franck Pinera-Barou, je laisse votre parole en l'air, le temps d'entendre la Madeleine de Bastien Vivès par Matteo Caranta, et je vous donne la parole juste après. Matteo Caranta, alors la BD est à l'honneur à Angoulême, la BD est à l'honneur sur France Culture et grâce à vous aussi.
Et oui, dans la Madeleine également, l'éternel adolescent de la BD française, Bastien Vivès, qui varie les plaisirs et les genres aussi bien avec des mangas détonnants comme Last Man, dont il vient signer le dernier tome cet automne, que dans des romans graphiques naturalistes, où il explore les thèmes de la sexualité et de l'adolescence, comme dans Une Sœur, publié chez Casterman, ou Petit Paul chez Glénat, qui raconte les péripéties d'un petit garçon au pénis démesuré. Mais si je vous parle d'adolescence, Caroline, c'est que la Madeleine de Bastien Vivès a un peu le parfum de la cour d'école. Une Madeleine régressive, on dirait presque une addiction.
Ma Madeleine, c'est le lait. J'ai pas arrêté de boire du lait depuis petit. Et c'est ce goût que j'ai marié avec tous les aliments que je pouvais. Je buvais du lait à table, petit déjeuner, dîner, déjeuner. Et donc j'ai eu un rapport très très particulier avec cet aliment-là. Et même les gens qui étaient autour de moi, je me souviens que ce soit les tantes, les cousins, les oncles ou alors les amis. Et ben à table, j'avais un litre de lait à côté de mon verre et je buvais un litre de lait à chaque repas. Je ne buvais pas de lait le matin. Le matin, je buvais du Yop avec des céréales que je mettais avec des gens. J'ai toujours ce savon mélange qui était Yop fraise avec Chocapic, ce qui est quand même un peu dur quand on y repense, parce que j'ai bu très longtemps. Et le soir, je mangeais des céréales, fromage blanc et miel. Donc en fait, 95% de mon alimentation, c'était du lactose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un foie qui est un peu à la ramasse, quoi. Il a un petit peu de mal à suivre. Si vraiment je me dis aujourd'hui, là, je rebois un verre de lait, je pense à ces bêtes, au fait de boire du lait après le sport et l'activité physique. Vraiment le lait pour se réhydrater. Déjà, il faut imaginer que vous avez la bouche qui est sèche, il fait chaud. Vous sortez du frigo une bouteille de lait que vous venez d'ouvrir. Et là, vous voyez, vous avez l'impression que c'est la chose la plus fraîche, soyeuse. Et au début, le goût, c'est juste de la fraîcheur pure. Il n'y a pas d'autre goût que ça. Et après, très vite, vous buvez comme ça, juste à la bouteille, pendant 10 secondes sans s'arrêter. Et après, on a tout le, une fois que ça retombe et que toute la fraîcheur est passée, on a ce petit goût de crème qui vous enveloppe et qui vous donne une sensation très protectrice, quoi, je pense.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait?
Vers 16 ans, 17 ans, j'ai arrêté le demi-écrémé, je suis passé au écrémé, qui ressemble vraiment, vraiment à de la flotte quand même. Et puis, il y a eu un moment où, vers 22 ans, j'ai remplacé le lait par du coca, ce qui n'était pas une très bonne idée. Et puis après, j'ai réussi à vraiment tout éradiquer vers, je sais plus, 20, 25 ans, 26 ans. Et aujourd'hui, je ne bois plus de lait, à part dans les hôtels. C'est le seul truc que je me suis dit, parce que, et quand je rebois du lait, c'est tellement bon, c'est, et je peux replonger assez facilement là-dedans, quoi. J'ai dû me sevrer, ouais.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Merci Matteo Caranta pour cette Madeleine laitière. Et on retrouve nos deux invités, Perico Legas et Franck Pinera-Barouste, pour parler du guide Michelin et de son évolution. Je vous ai donc laissé en l'air, Franck Pinera-Barouste, juste avant la Madeleine. Vous avez complètement oublié ce que vous vouliez dire, j'en suis sûre. Du coup, je vais vous poser ma question. Qu'est-ce qu'il représente, le Michelin, aujourd'hui? Est-ce que c'est encore une référence? Ou est-ce qu'il est dépassé? Est-ce que ça explique que Gwendal Poulenec soit partisan d'un déploiement du guide à l'international, qu'il soit en quête de partenariat, en particulier ce partenariat stratégique qu'il a signé avec le site de notation TripAdvisor pour gagner des clients, pour que les lecteurs du guide Michelin soient encore au rendez-vous? Où en est-il? Il est vraiment en perte de vitesse? Certains parlent même de fin de règne.
Fin de règne, j'y crois pas. Perte de vitesse, on va dire qu'il y a une telle inertie dans ce gros bateau-là qui va encore avancer longtemps, je pense. Non, je crois que ça reste la référence pour les chefs. La première chose, c'est paradoxalement peut-être un guide de plus en plus pour les chefs et de moins en moins pour le lectorat, ce qui peut être paradoxal, mais ça reste la cotation la plus importante pour les chefs. Si vous avez une étoile, deux étoiles ou trois étoiles, vous êtes dans des familles. Et il y a réellement la famille des une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Les trois étoiles se parlent entre eux, les deux étoiles se parlent entre eux et les une étoile se parlent entre eux.
C'est ça qui veut casser ce côté entre soi, autocongratulation.
Quelque part le symbole d'ailleurs, c'est assez intéressant pendant la cérémonie de lundi dernier. dernier. Ils ont mélangé, lors de la remise des promotions, les 2 et 3 étoiles. Il y avait comme effectivement une volonté de mixer un petit peu tout ça et de casser un petit peu les frontières. Et cet exercice était assez intéressant et de plutôt les classer par ville et province, je crois. Et peut-être que là, il y a un premier signe à voir comment il faudra l'interpréter dans les prochaines années. Mais ça reste en tout cas la référence et tous les chefs vous le disent. Et même ceux qui disent « je ne veux plus y être », en réalité, c'est qu'ils sont un petit peu quelque part frustrés.
N'en déplaise à Péricot.
Non, je les soupçonne de ne pas savoir eux-mêmes exactement dans leur propre cotation, quelle est la nuance entre 1 à 2, de 2 à 3. Franck et moi, on connaît, on
ne savent pas manger, pour vous.
Ah, moi, je pense qu'ils ne savent plus manger d'une certaine façon. Ils sont obsédés par des paramètres d'inventivité, de créativité, mais ça, tout le monde en a un petit peu, de couleur. Alors, il y a aussi la situation du restaurant, l'âge du restaurateur. L'étoile, c'est l'étoile de bonne table. Un des directeurs qui s'appelait Bernard Nechelen, il disait, mon rêve, ça serait de donner 3 étoiles à un routier, au prétexte que ce serait la meilleure. Et souvent, en m'adressant aux dirigeants du Michelin, je leur disais, mais vous avez à Paris des bistrots, dans ce qu'on appelle la bistronomie, absolument géniaux, qui mériteraient que vous donniez 3 étoiles dans sa catégorie.
Oui, des voilà. Jeunes, des femmes,
ben non, beaucoup. Les 3 étoiles, c'est un guide rouge, mais c'est un guide de classe bourgeoise pour riches. Les 3 étoiles, c'est les endroits friqués. Ce qui est dramatique, c'est que c'est devenu obsessionnel. Alors, qui est le guide Michelin? Ceux qui pensent qu'ils vont l'avoir et ceux qui craignent qu'ils vont la perdre. Mais effectivement, Franck Pinera-Barouste a raison, plus un Français ne prend aujourd'hui le guide Michelin pour savoir où il doit aller dîner ce soir ou dimanche prochain.
Enfin, il le prend et il complète avec d'autres peut-être.
Oui, mais même pas, ouais, c'est sur Internet, mais ils ont un site Internet. Le problème c'est qu'ils ont les deux, ils ont un site Internet qu'ils devraient développer.
Ils ont une application, ils sont sur les réseaux sociaux.
En plus, publier un guide une fois par an, avec, on a fait un certain nombre de passages, les petits établissements ne sont pas visités, c'est sur questionnaire. Et pendant un an, vous avez une publication qui va donner la cote, alors qu'il peut y avoir une évolution. Ce qui est génial sur le site Internet, c'est qu'on peut évoluer en courant d'année. J'allais vous dire, de façon caricaturale, on peut donner la 3e étoile au mois de mars, on la retire en septembre, on la remet au mois de décembre, vous voyez ce que je veux dire? Et là, faire un guide, une bible rouge, tout ça c'est fini, là ils sont morts. Par contre, le guide Michelin en tant que cotation, ça reste une référence.
Deux choses importantes, si vous prenez le guide Michelin papier 2017, 2018, 2019, 2020, vous allez vous apercevoir qu'il a réduit de volume en quelques années, et l'édition 2020 est exactement dans le même mouvement, de moins en moins de tables sont référencées, ce qui veut dire que les inspecteurs tournent un petit peu plus, parce qu'effectivement, les restaurants étoilés sont visités chaque année par au moins un inspecteur. Et les tables non étoilées, à mon époque en tout cas, il y a une dizaine d'années, étaient visitées tous les 3 ans. Ce qui pose effectivement problème, puisque ça, dans un tel mouvement...
C'est vrai pour tous les guides, hein, on est d'accord. Hein.
C'est même pire pour d'autres guides.
Eux, c'est encore ceux qui vérifient le mieux.
C'est quand même ceux qui font... Je peux les critiquer effectivement sur la ligne éditoriale, incompréhensible. En revanche, sur le terrain, ils y sont.
Sur la déontologie.
Et là, les anecdotes sont assez riches quand même pour montrer qu'ils sont très réactifs. Ils peuvent descendre en 3 jours, ils apprennent qu'un restaurant vient d'ouvrir, ils y vont et 3 jours après ils y sont et ils peuvent donner une étoile. C'est le cas par exemple de l'auberge de Montmain à Talloire où effectivement ils sont venus 3 jours après l'ouverture et ils ont eu l'étoile cette année dans un délai relativement court. Ils peuvent être réactifs.
Alors qu'à 20 ans ils passaient 2 ans après le Gomillot. Ils attendaient ce que le Gomillot décide et ils étaient à la traîne et maintenant ils veulent être en devant. Et de temps en temps on se prend les pieds dans le tapis.
Et autre point important, et Péricot l'a souligné, c'est que contrairement bien évidemment au document physique qui ne peut pas évoluer puisqu'il est imprimé, en revanche pour la première fois, les textes sur Internet vont évoluer en fonction de l'actualité. C'est-à-dire qu'ils ont commencé là en fin d'année 2019, enfin. Début d'année 2020, enfin. Ils vont faire évoluer les textes. Si un chef part, s'il y a un changement, ils ne changeront pas les étoiles qui elles seront décernées tous les ans, mais en revanche le texte peut monter ou être dégradé en fonction des essais de table au cours de l'année, des tournées des inspecteurs, et ça c'est très important.
Et quid pour terminer de ce qu'a proposé par exemple, Jean-François Mesplède, hein, l'ancien directeur du guide Michelin, créer une étoile d'or, c'est-à-dire une étoile hors catégorie, passer un certain nombre d'années, par exemple Bocuse, mais passer un certain nombre d'années à 3 étoiles, on est hors catégorie, on ne classe plus.
En 1996, j'avais fait un canular, j'avais inventé la 4e étoile avec un petit montage, à l'époque c'était l'événement du jeudi, je l'avais décerné à Claude Perrault du Vivarois, ça avait fait un scandale retentissant. Je voulais juste leur dire, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez prendre les grandes institutions, les commandeurs, voilà, la statue du commandeur, et puis vous les classez à part, vous les mettez hors concours, quitte à ce qu'un jour ils soient plus bons et vous les dégagiez, voyez. Mais ils ont ce problème, on peut pas comparer tous les 3 étoiles ensemble, et l'idée c'est d'une étoile d'or. Est-ce que Paul Bocuse aurait pu, en l'état, être mis hors concours jusqu'au jour où il n'est plus? Oui, c'était une solution. Le descendre à 2 étoiles là, c'est aberrant, c'est méchant, c'est scandaleux et c'est idiot.
Non, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'un restaurant ne sera jamais un musée. On vient y manger chaque jour c'est différent. Le Goût et Millau a fait ça avec le Club des Intouchables, c'est absolument ridicule. Un restaurant est un lieu qui vit, et Jérôme Bocuse, il y a encore quelques jours, me disait « la 4e étoile, jamais je n'en aurais voulu. Je veux au contraire que ça puisse vivre, bouger, donc non à la 4e étoile. »
Allez, il est largement temps d'entendre la cerise sur le gâteau. Surtout, restez avec nous tous les deux, Franck Pinera-Barouste et Péricot Légas. c'est donc l'heure de la cerise sur le gâteau. Camille Labrou, vous restez dans le sujet Michelin d'une certaine façon.
Et oui, parce que j'y suis allée.
À quoi ? À la soirée ?
À la soirée.
De remise ?
De remise des étoiles Michelin. Et c'était la fin de la cérémonie. Après plus de 2 heures, on avait un peu une autre compte de discours. On avait trouvé ça plutôt bien tout de même, quoique un peu ironique, que l'industrie du pneu décerne cette année des macarons verts à des tables éco-responsables. On était contents forcément pour tous ces cuisiniers récompensés, même si on se demande toujours un peu à quoi ça sert tout ça. Et on a compté, comme d'habitude, les femmes sur les doigts d'une main. Puis, la dernière étoile est arrivée. C'était une étoile perdue depuis 30 ans. On a vu monter 2 hommes sur scène, un jeune et un plus âgé, tous 2 les larmes aux yeux. C'était la fin de la cérémonie et Lousteau de Beaumanière retrouvait sa 3e étoile. Et même si on dit qu'on s'en fiche des Michelin, on ne pouvait pas ne pas être ému. C'était un beau moment et une belle histoire. Lousteau de Beaumanière est un vieux mât des Baux-de-Provence, réhabilité en 1946 par Raymond Thuillier, en un relais de charme au milieu des oliviers, des lavandes et des cyprès, et en contrebas du fantasmagorique Château des Baux. Les plus grands noms y ont séjourné, de Georges Pompidou à Picasso, en passant par Liz Taylor, Charles de Gaulle, Jean Cocteau, Marc Chagall ou encore la reine Elisabeth. Durant 50 ans, la maison a été tenue par son fondateur, grande figure de la gastronomie française qui a décroché les 3 étoiles en 1954 et les a conservées pendant 35 ans. En 1969, Raymond Thuillier donc fait appel à son petit-fils, Jean-André Charial, pour lui confier des tâches de gestion. Or celui-ci rêve d'autre chose. Il veut, dit-il, donner la vie. Il veut cuisiner. Malgré l'autoritarisme de son aïeul, il parvient à se faire une place au fourneau. Mais quelques années plus tard, patatras, la maison perd sa 3e étoile. On le pointe du doigt. Jean-André Charial accuse le coup. La route a été longue pour cet homme généreux, fort et doux à la fois, tout en contraste avec son grand-père. Et après la mort de ce dernier, en 1993, le petit-fils a fusionné la maison familiale, les restaurants, les chambres, le vignoble, le potager bio. 20 ans plus tard, en 2015, alors que quantité de grands noms se pressent au portillon, Jean-André Charial décide de passer les rênes de sa cuisine à Glenville, jeune chef encore peu connu aux allures de rugbyman. Charial veut rester maître chez lui, dit-il, et donner le ton de la cuisine. Mais Vielle ne l'entend pas de cette oreille. Il impose progressivement son style, sa fougue et son instinct. Le patron, peu à peu, lâche la bride, ce que n'avait pas su faire son grand-père. Et c'est sans doute là que tout se joue. Libre et créatif, Glenville concentre les goûts qui l'entourent, fait sécher des tomates sur le toit, invente des cailloux d'assaisonnement, imagine des accords mets-pain, compresse les racines, cuit le homard dans la cire d'abeille et le poisson sur la pierre. Les menus de Lousteau s'en trouvent modernisés, gagnant en contraste, en radicalité, en légèreté, jusqu'à récupérer cette étoile tant convoitée. Jean-André Charial l'a avoué sur scène l'autre soir, c'était son rêve le plus cher. Mais s'il a pu se réaliser, c'est aussi parce que lui a su donner toute sa place, toute la lumière à un autre. Et ça, c'est une vraie histoire de transmission et une sacrée leçon d'humilité.
Glenville, qu'on avait reçu en partie dans cette émission des Bonnes Choses pour parler de la cuisine éco-responsable, si je ne m'abuse. Un grand merci à nos 2 invités, Perico Legas et Franck Pinet-Rabarousse. La suite
sera... Vous voyez avec quelle déférence nous parlons du Michelin malgré tout.
Absolument.
On est critique, mais on...
Beaucoup de respect.
On a bien entendu. Merci à tous les deux. Et comme chaque dimanche, les Bonnes Choses se poursuivent en réécoute et en podcast, notamment sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Alain Joubert, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.